Soyez les bienvenus sur Radio Écho des Choucas. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chute, on écoute la télé. Le talk show radio sur Radio Écho des Choucas, votre radio dans la Vienne.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Jardres-Chauvigny, votre spécialiste culture en pays chauvinois.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Radio Écho des Choucas. À la radio, sur internet, sur les réseaux. Radio Écho des Choucas, votre radio.
Et bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute en écoute la télé l'hebdo sur Radio Écho des Choucas. Vous nous écoutez chaque lundi à 18h dans tout le pays chauvinois sur le 103.7. Pendant une heure, on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors ça tombe bien, tout de suite, voici le sommaire.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et pour cette nouvelle hebdo de Chute, on écoute la télé, eh bien nous allons avoir le plaisir de reparler de la série Je te promets dans un instant avec Guillaume Labbé, celui qui joue le rôle de Mickaël sera notre invité. Nous aurons le plaisir de consacrer une large partie de cette émission également au téléfilm Les Mystères de la Chorale qui sera diffusé samedi soir sur France 3. À cette occasion, la productrice Sylvette Friedman et Maud Becker seront nos invités. Nous parlerons également des aventures du jeune Voltaire qui démarre ce soir sur France 2. Bernard Lecoq sera notre invité pour en parler. Et puis nous allons également en parler du très beau documentaire diffusé demain soir sur France 5, L'Enfant du Double Espoir, avec Arnaud Sainte, l'un des co-réalisateurs, qui sera également notre invité exceptionnel. Mais pour commencer, eh bien on va faire le bilan des audiences de janvier, puisque ça vient de tomber. Alors c'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Et on va dresser ensemble donc le bilan des audiences du mois de janvier. Toujours privé de sorties en soirée, pandémie oblige, les Français sont restés très friands de télévision en janvier. Et surtout d'actualité, les chaînes d'info enregistrant avec TF1 les plus fortes hausses d'audience sur un an. D'après les données publiées par Médiamétrie, la durée d'écoute globale de la télévision qui prend en compte le visionnage de tous les écrans s'est établie à 4h06 en janvier, soit 13 minutes de plus qu'un an plus tôt. Sur la première marche du podium avec 19,9% de part d'audience, TF1 a signé son meilleur mois de janvier depuis 2016 en gagnant 1,1 point par rapport à janvier 2019. A noter également que pour son premier mois manette du JT de 13h, Marie-Sophie Lacaro a surpassé son prédécesseur Jean-Pierre Pernaut. Son journal a attiré en moyenne 5 900 000 téléspectateurs par jour pour 42% de part de marché. Au classement général, France 2 conserve sans surprise sa deuxième place avec une part de marché de 14,2% devant France 3 qui est à 9,2%. Au pied du podium, M6 gagne 0,1 point à 8,9% devant France 5 stable à 3,6%. Enchaînant les records, BFM TV gagne 1 point à 3,2% et Arte s'établit donc à 3,2%, un record depuis 2005. À noter également les très belles audiences du lancement de Je te promets sur TF1 lundi dernier à plus de 5 millions de téléspectateurs et la très belle performance également mardi de la série Alexandra L. C'était sur France 3. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de ce mois de janvier. Et puis on va tout de suite reparler de la série Je te promets, c'est Guillaume Labbé qui débarque tout de suite dans Chute, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré évidemment ce soir à la suite de votre série événement sur TF1, Je te promets. Et quel bonheur de pouvoir recevoir les personnages les uns après les autres comme ça dans notre émission. Et cette semaine, c'est Guillaume Labbé qui joue le rôle de Mickaël qui est avec nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis très content de t'avoir, Guillaume. On avait eu l'occasion de t'avoir pour la série Trauma, pour 13e rue, à l'époque, au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Quel bonheur de te retrouver là, dans cette adaptation de This Is Us.
Bah, merci, je suis hyper content. C'est un plaisir d'être dans cette adaptation. Ouais.
Mais j'imagine que ça a dû être quand même quelque chose de jouer dans une série, parce que voilà, entre une série originale et une série, on doit jouer le rôle de quelqu'un qui existe déjà dans une autre version. Comment on se prépare à ça, justement, Guillaume? Est-ce qu'on regarde pas la série originale pour garder une certaine fraîcheur de jeu, ou alors au contraire, on regarde pour essayer d'être quand même au plus près de Kevin dans la série originale?
Alors, je pense que c'est vraiment chacun fait à sa sauce en comédien. Moi, j'avais pas vu la série, je voulais pas la regarder. Donc, je préférais me préparer à ce rôle comme un rôle totalement nouveau, avec un œil neuf. Et donc, c'est ce que j'ai fait au départ. J'ai quand même demandé, on a discuté avec la productrice Aline et puis avec les réals. Je leur ai dit, voilà comment je vois le personnage. Je leur ai joué des parties, on a parlé du personnage, de son histoire, de qui il est. Et je leur ai dit, est-ce que vous voulez que je regarde le personnage ou est-ce que ça vous va? en leur disant ma préférence, moi, c'est de ne pas regarder. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, ça correspond, c'est ce qu'on souhaite. Donc moi, je l'ai vraiment abordé complètement comme une série originale. J'ai jamais pensé à la série d'ICDF, en fait.
Alors ça, c'est génial, franchement, parce que s'approcher aussi près et être aussi bon pour le coup sur un rôle sans même avoir regardé l'autre avant, j'aurais parié le contraire. Franchement.
Bah écoute.
Bravo.
Moi, je pense que ça m'aurait, je pense que ça aurait été plus compliqué.
Ça t'aurait desservi peut-être.
Je pense que de tout ce que j'ai entendu, en plus, le comédien est absolument excellent. Les comédiens sont excellents. La série est tellement réussie. Moi, tous ceux qui m'ont vu autour de moi m'ont dit que c'était exceptionnel. Je me suis dit, de toute façon, je vais essayer de faire un, si ça se trouve, je vais me retrouver à essayer de faire un copier-coller d'un gars qui est pas du tout comme moi, qui ne voit pas comme moi. Et donc, je sais pas s'ils auraient, aussi bien réussi. Mais les autres comédiens, je sais qu'il y en a d'entre nous qui ont vu la série originale, qui l'avaient vu avant, qui l'ont regardée, qui ont travaillé différemment. Donc c'est vraiment, chaque comédien fait comme il le sent, je pense.
Alors on découvre dans cette série, pour ceux qui ont raté les deux premiers épisodes, hein, les destins croisés dans les années 90 de tes parents, de ta maman qui met au monde, qui est jouée par Camille Lou, de triplés. Et on découvre eh bien ces triplés aujourd'hui en 2020, ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils font de leur vie, des choix qui sont faits tout au long de ce parcours de vie et beaucoup d'aventures en tout cas qui lui arrivent. Quand t'as lu le scénario, tu t'es dit quoi? Voir, on arrive vraiment dans quelque chose qui ne s'est jamais fait à la télévision, on aborde plusieurs époques comme ça. Tu t'es dit quoi à ce moment-là?
Alors je me souviens vraiment, parce que quand j'ai reçu les scénarios, j'étais hyper ému en fait quand j'ai lu. J'ai pas forcément pensé au côté formel, les plusieurs époques. J'ai vraiment lu d'une traite, sans me poser trop de questions, sans regarder mon personnage et sans voir comment c'était fait. J'ai été complètement chopé, c'est-à-dire que j'ai été ému, j'ai pleuré, je me suis marré à des moments. Et c'est que après que j'ai un peu plus analysé en me disant, mais c'est très très bien fait. Les flashbacks qui éclairent les personnages aujourd'hui, et du coup c'est ça qui amène aussi de l'émotion, parce que ça nous fait comprendre des scènes qu'on n'aurait pas compris sans ces retours en arrière, et à quel point ça a enraciné les relations entre les personnages. Et je pense que c'est ça qui est vraiment émouvant. J'ai adoré le scénario.
C'est ça qui est assez génial dans cette série, pour le coup, c'est que des fois, on comprend rien pendant 20-25 minutes et d'un seul coup, tout s'éclaire. Et c'est ça qui est assez magique dans cette adaptation également. Alors, on a vu dans les deux premiers épisodes, Guillaume, hein, que tu t'étais fait licencier de l'OM. Donc, c'est un peu l'heure de la reconversion pour ces deux nouveaux épisodes-là. Et donc, tu vas te reconvertir dans la comédie et avec, on va dire, une guest de choix, puisque c'est Olivia, qui est jouée par Natasha Lindinger, qui va te coacher. Alors évidemment, il va se passer plein de choses, mais c'est une reconversion pour Michael qui, on sent, va certainement lui faire du bien quand même.
Oui, oui. C'est une reconversion qui est vraiment amenée par sa sœur, qui essaie de le sortir de l'ornière de vraiment de la dépression, parce qu'il a jamais fait autre chose que footballeur, et donc c'est vraiment hyper compliqué de se reconvertir. Et le théâtre, ça va vraiment lui permettre de s'ouvrir à ses sentiments, à ce qu'il a refoulé. Ça l'oblige à se connecter à beaucoup de sentiments qu'il a refoulés et qui lui permettaient pas de grandir. Parce qu'il démarre la série de manière très immature, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai abordé comme ça. Je sais pas si ça s'en ressent, mais...
Ouais, c'est tout le contraire de Matisse, en gros.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Guillaume, est-ce que tu es prêt? 6 saisons, peut-être? Si le succès continue à être au rendez-vous comme il l'a été lundi dernier, je vais pas te mettre la pression, mais normalement, on est parti pour au moins 6 saisons, si tout va bien.
Alors... Vous parlez à quelqu'un qui a des réels vrais problèmes d'engagement. C'est-à-dire que j'ai reporté un mariage, je l'ai annulé, je me suis séparé, j'arrive pas à m'engager sur un an. Si on me propose un dîner à 2 semaines, je peux totalement avoir une poussée d'urticaire. Donc là déjà, donc me projeter sur 6 saisons.
Je t'ai mis un coup de stress.
Évidemment là. Ouais, là je suis actuellement pas bien. Je me suis mis sur le sol et je suis en position fœtale. Voilà. Mais évidemment là à l'instant T, ça serait déjà de savoir qu'il y a sans doute et peut-être une saison 2 et qu'on retourne tous ensemble retrouver le personnage, retrouver les comédiens aussi, ça sera un régal.
Ce sera un beau cadeau. Ouais, ça sera déjà un beau cadeau.
Ouais, énorme,
en
énorme.
Tout cas, il y a des très belles scènes de vous trois qu'on va découvrir dans cette première saison avec Marie-Lou et avec Narcisse. Je pense aux scènes du cabanon. Je pense, voilà, il y a vraiment des scènes très très fortes entre vous trois. Comment ça s'est passé un peu en coulisses, justement, le tournage de ces scènes entre vous?
Ah, hyper bien. On s'est tout de suite vraiment bien entendu dès les lectures, en fait, dès le départ. Et en plus dans le jeu, on s'est compris, et même dans l'analyse des scènes, dans les discussions de préparation. On a senti qu'on était sur la même longueur d'onde. Et vraiment, le truc génial, c'est d'être avec des comédiens qui sont pas chiants. Il y a des comédiens qui peuvent être chiants, qui peuvent parfois être un peu... Et là, c'est vraiment des gens qui sont à 100% dans le travail et qui sont faciles, en fait. Donc, c'était facile de travailler.
Manu, j'ai hâte de découvrir la suite ce soir, hein, en tout cas. Guillaume, t'as d'autres projets pour 2021? Est-ce qu'on va te voir dans d'autres choses? Est-ce qu'on pourra peut-être voir une suite de Trauma un jour, une saison 2 aussi?
Ah, non, ça, c'est pas d'actualité. Je sais pas. Je sais que la série, elle suit vraiment son cours. Elle est très, très bien à l'international. Donc, on va voir. Je sais pas si, où elle va être diffusée, si elle a une, elle va avoir une deuxième vie en France, surtout, parce qu'elle a été plutôt confidentielle et qu'on espère que ça soit vendu sur un truc un peu plus gros. Et après, il y a la saison 3 et la saison finale de Planqueur.
Oui, pour Netflix.
Qu'on commence à tourner là dans une semaine et qui et les textes sont très très drôles, je suis hyper content. Et je commence une série c'est la première série Disney Plus en France. Donc qui est vraiment franco-française, qui est produite par Empreinte Digitale encore, qui avait produit Trauma, et c'est une série qui s'appelle Parallèle, le tournage a démarré et on tourne ça entre Chambéry, Grenoble et Paris.
Bon, il y a de quoi faire. Et puis l'été prochain, si tout va bien, eh bien saison 2 Je te promets. On va découvrir les épisodes 3 et 4 ce soir, Secret Inavouable et la Ligue des Champions. Merci Guillaume d'avoir été avec nous pour nous parler de ton personnage et on te dit à bientôt.
Ouais, avec plaisir.
Et tout de suite, eh bien la bande annonce. C'est parti.
Au revoir.
J'ai toujours voulu le meilleur pour mes enfants.
Avec une voix aiguë, tu nous fais peur.
Mais quelle voix aiguë?
Celle-là.
Tous ensemble, hein, heureux, en bonne santé, ce cadeau-là, vous pouvez me l'offrir jusqu'à mes 120 ans.
En route vers l'aventure.
Tu vas faire de grandes choses.
Comment j'ai fait pour en arriver là?
Mickaël, c'est toi la star de la famille. J'aurais été la star si t'avais pas été là.
J'adore cette famille.
Et dans un instant, notre spécial Les Mystères de la Chorale avec Sylvette Friedman, Maud Baker. Nous aurons le plaisir de recevoir Bernard Lecoq également pour Les Aventures du jeune Voltaire et également Arnaud Xinte pour le très beau documentaire L'Enfant du Double Espoir. Tout ça, c'est dans un instant dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
Moi, j'écoute Radio Écho des Choucas et c'est trop sympa.
On a dévalé la pente en moins de deux. On a fait comme si on savait pas. On a évité les regards ambigus. On a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses. Repoussé la faune, compliqué les choses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours j'étais ton roi. Tu as bien grandi et tu me brusques. Et parfois même tu te lèves dans mes bras. Mais jamais, jamais, jamais plus. Car je le sais, je suis l'homme qu'on ne voit pas. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Tu as décidé des règles en fin de jeu. J'étais teenager amoureuse. Puis le temps s'est écoulé en moins de deux. Fini les années délicieuses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours t'étais moi. Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause. Et seul tous les soirs.
Et seul tous les soirs.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et seul tous les soirs, je reste dans le noir.
Et si le soleil se lève sur les autres, je sais que c'est moi qui ai chassé les roses. Amour d'amour, tu le sais, c'est ma faute. J'ai bien trop peur pour casser les choses. On va s'en tenir simplement à nos rôles. Je serai là pour toujours ton épaule. Je sais que c'est triste, mais je suis sous hypnose. Plus tu t'approches et plus j'appuie sur pause.
Société Thérapie Taxi pour vous servir.
Vous êtes sur Radio Écho des Choucas. 103.7.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré ce soir aux aventures du jeune Voltaire. C'est sur France 2 que ça démarre cette mini-série en 4 épisodes. Vous allez pouvoir découvrir les deux premiers dans lesquels, eh bien, le premier qui va apparaître à l'écran, c'est notre ami Bernard Lecoq qui est avec nous en ligne. Bonjour Bernard.
Bonjour, ça va?
Oui, ça
oui,
va.
Oui, je vais apparaître à l'écran pas très longtemps parce que l'histoire raconte les aventures du jeune Voltaire joué par Thomas Soliveres et tout au long de cette belle histoire. Donc voilà, je voulais juste prévenir que j'étais pas là très longtemps, mais en tout cas, je suis très très content de pouvoir parler de cette série, cette mini-série d'Alain Tasma qui est magnifiquement avec un tas d'acteurs. Avec mon copain François Martouret, entre autres, et enfin plein d'acteurs.
Donc, ah, il y a un casting assez incroyable.
Hein. Gamme, ouais. Et donc voilà, et alors surtout, il y a le personnage de Thomas, le jeune Voltaire, qui fait tout le mois pour vivre, pour exister, pour auprès des femmes, auprès du pouvoir, auprès de tout ça. Alors c'est très marrant, parce que c'est très contrasté avec l'image qu'on peut plus ou moins vaguement en ce qui me concerne avoir de ce personnage de Voltaire, vieux sage, qui combattait, etc., des idées reçues sur la religion et tout ça. Et là, lui, ce jeune homme, il est encore tout à fait flamboyant dans la vitalité de la jeunesse. Donc, c'est très, très passionnant. La série est magnifique,
je trouve. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Bernard, mais Voltaire, c'est un nom qui parle à tout le monde. Tout le monde a entendu parler, évidemment, de ce personnage joué en couleur, Voltaire, mais très peu connaissent, en fait, sa vie, son destin. Et c'est bien qu'on puisse découvrir, en tout cas, ça, sur ces 4 épisodes, qu'on puisse découvrir une partie de sa vie. Hein.
Oui, parce que ça va donner peut-être envie à beaucoup de gens, et à moi le premier d'ailleurs, de découvrir véritablement le personnage tout au long de son existence et ça, et son évolution et ce à quoi il a été confronté, ce qu'il a apporté évidemment à la littérature et à la philosophie. Donc c'est salutaire toujours ça, parce qu'en plus c'est très très brillant, c'est un personnage qui a énormément de charme et donc il y a un plaisir formidable à le suivre vraiment dans ses aventures folles, quoi. Ça, je pense que les gens vont découvrir ça avec délice.
Alors l'aventure démarre en 1778 à la mort de Voltaire. Tu joues Voltaire, toi le plus âgé, à quelques jours de sa mort pour le coup.
Oui, quasiment mort. Oui.
Puis après tu vas narrer, puisque on va se replonger évidemment jusqu'en 1694 quand il est né, puisque Voltaire a quand même vécu 84 ans mine de rien.
Oui, non, ce qui était un âge assez avancé.
À cette époque-là, oui.
D'ailleurs, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des gens qui vivaient vieux, mais enfin, il y en avait beaucoup qui mouraient plus jeunes de toutes les avanies que la vie propose. Et donc, effectivement, il a eu un destin avec une vie très longue, ouais, c'était formidable, parce que ça lui a laissé le temps de faire une œuvre.
T'as appris des choses toi-même sur la vie de Voltaire en préparant peut-être.
Honnêtement, pour tout dire, j'ai pas eu à préparer considérablement. J'allais mourir quelques heures après, mais j'ai appris évidemment à travers le film,
le scénario,
série,
oui.
Toute l'histoire de sa jeunesse. Et c'est vrai que ça me donne assez envie sur le tard comme ça de me plonger dans l'homme, cet homme. Moi, je connaissais très très peu tout ça. J'ai pas fait d'études, j'ai pas de enfin, j'ai un souvenir de Voltaire à travers Ferney-Voltaire, parce que quand j'étais gamin, on m'avait envoyé chez des amis qui habitaient Ferney-Voltaire. Je me disais, ah, c'est quoi Ferney-Voltaire? Ben, c'est là qu'habitait le fameux Voltaire. Ah bon, ah, très bien, voilà, où j'en suis resté. Mais donc, voilà, il y a à découvrir, de toute façon, formidablement, à travers cette série, et ça, c'est vraiment une des grandes qualités de la télévision, quoi, de venir voir des choses comme ça, et de faire découvrir des personnages tout à fait... vraiment partie de notre culture et qui ont au fond des idées, quoi, que je vais pas tarder à découvrir.
Puis sur le temps, c'est ça qui est bien aussi, c'est que là, on va pouvoir découvrir quand même ce destin sur 4 fois 52 minutes, hein, ces deux soirées proposées. Donc ça laisse le temps effectivement à Alain Tasma aussi de nous montrer peut-être plusieurs facettes du personnage qu'on va découvrir évidemment tout au long de ces deux soirées. Bernard, même si c'est une participation, voilà, Au début, c'est une participation exceptionnelle, comme on dit. Je suppose qu'en 2020, tu as pu tourner un petit peu, malgré le Covid. Comment ça s'est passé pour toi?
Oui. Bah, j'ai fait beaucoup de choses, à vrai dire. Là, j'ai tourné dans une mini-série, quelques camarades, comme Nicole Calfan, comme Joël Star, enfin, beaucoup de personnages autour. Et j'ai tourné aussi dans un film de Dwarbert, hein, qui est avec aussi quelques copains, comme Pierre Arditi, Daniel Prévost et d'autres, et François Damien, c'est Poudvort, enfin tout ça. Donc ça, c'était aussi une belle aventure. On va voir ce que ça va donner. Et puis voilà, j'ai participé à deux ou trois films qui sortiront quand ils sortiront.
Bah oui, Paul Riquet, toujours en attente, évidemment.
Oui, absolument, on l'attend, mais ça va finir par se mettre en place, comme tous les problèmes sont réglés. C'est compliqué de faire des films de cinéma,
ouais.
C'est
une chose compliquée. Surtout en ce moment.
Des enjeux, des problématiques de toutes sortes. Mais enfin, je l'espère vraiment, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Maintenant, j'ai vraiment envie qu'il soit diffusé. Mais ce qui est, ça va se faire, là. Je pense que c'est l'année qui va nous montrer.
Bon, la question que tout le monde se pose aussi, Bernard, quand même, l'année prochaine, ça sera les 30 ans d'une série qui a marqué toute une génération, La Famille Formidable. Ouais. Est-ce que vous comptez fêter cet anniversaire avec peut-être un épisode événement,
que non, ça soit non,
pour la télévision, quelque chose
non,
ou même entre vous déjà, peut-être aussi.
Non, mais on parle de ces choses-là, les mômes, s'ils ont envie de faire les choses. Mais enfin, tout ça, c'est très compliqué. C'est d'abord, il y a une histoire de droit et tout ça, s'ils ont envie de continuer. L'aventure va très bien, ils sont les bienvenus, mais moi j'ai une position très très claire vis-à-vis de ça. Pour moi, La Famille Formidable, c'était l'œuvre d'un homme.
Oui.
Joël Santoni. Cet homme est mort, est décédé, est parti, ça m'a fait beaucoup de peine, ça fait de la peine à tout le monde, mais je pense que cet homme avait insufflé un style, une manière de voir les gens, des personnages, la vie, qui n'appartenait qu'à lui, et j'ai pas envie que ce soit tout à coup comme ça. Bien sûr qu'on peut toujours raconter d'autres histoires et faire d'autres choses avec les personnages qu'il avait inventés, mais je tiens, moi, personnellement, à ce que ça reste son
œuvre.
À lui.
Bien sûr. Mais oui, c'est clair.
Donc voilà.
Bon, en tout cas, on va découvrir dans Les Aventures du jeune Voltaire. Alors, regardez bien Bernard, hein, dès le début, profitez-en bien. Vous allez pouvoir découvrir ça. Et puis les deux premiers épisodes, eh bien c'est justement ce soir à 21h10 sur France 2, juste après un si grand soleil.
Venez nombreux voir Voltaire jeune avec ce magnifique jeune acteur.
Exactement. Merci beaucoup Bernard d'avoir été avec nous.
Ben, merci beaucoup Alain et puis bonne soirée.
Allez, à très très bientôt. Merci à toi.
À très bientôt, merci à toi. Au revoir.
Et tout de suite, la bande annonce.
Pour conquérir la gloire, ma plume sera mon fusil.
Je n'ai jamais été autant bouleversée par des vers. Vous m'avez emporté, monsieur.
C'est le plus beau compliment que vous puissiez faire à un auteur, madame.
Mais ces gens-là ne sont pas de ton monde, François. Faudra bien qu'un jour tu en conviennes.
À qui ai-je l'honneur ?
Voltaire. Pour vous servir.
Vous allez encore parler de religion et de politique ? 11 mois à la Bastille ne vous ont pas suffi ?
Je vous croyais mon ami.
Je le suis, François. Tant que vous resterez à votre place.
Je n'ai pas vaincu la mort pour courber les chines. On n'imposera plus le silence.
Les aventures du jeune Voltaire. Inédit, lundi prochain à 21h05 sur France 2.
La série est disponible en avant-première dès maintenant sur salto.fr.
Allez, le coup de cœur télé de la semaine, c'est aussi samedi. Vous allez pouvoir découvrir un nouveau téléfilm de la collection Les Mystères. Et c'est Les Mystères de la Chorale que l'on va retrouver, toujours produit par Sylvette Friedman et Jean-François Le Petit. Sylvette Friedman qui est notre invitée justement aujourd'hui. Bonjour Sylvette.
Bonjour à tous. Merci de me recevoir.
Merci d'être avec nous. On va en parler hein, des mystères de la chorale et puis on aura Maud Baker qui va également nous rejoindre d'ici quelques instants pour nous en parler. Alors d'habitude, vous posez vos valises du côté de l'Atlantique et ce coup-ci, eh bien, c'est une enquête du côté de la Méditerranée que vous allez nous proposer samedi, Sylvette, à travers ces mystères de la chorale.
Exactement. Voilà, on avait envie de changer un peu d'air, mais enfin là... On revient très vite pour un prochain mystère en Charente-Maritime. Voilà, nous sommes d'ailleurs actuellement en tournage.
Oui, les mystères de l'école de gendarmerie, mystère, c'est voilà. Ça, c'est celui-ci, la suite.
En effet.
C'est la suite des mystères
voilà.
du Mont-Galant.
Voilà, un peu. Oui, voilà, on va dire ça. Et effectivement, on retrouve nos protagonistes des mystères du Bois-Galant, c'est-à-dire Sarah Mortensen et Olivier Citruc, et on les retrouvera dans la poursuite de leurs aventures amoureuses, mais avec un nouveau crime qui se passe dans une école de gendarmerie. Voilà. Mais ça, c'est pour le futur. Donc,
oui, exactement.
Celui qui nous intéresse, en effet, c'est les mystères de la chorale. Et on a choisi d'aller plutôt à Marseille. Pourquoi? Ben parce que c'est une magnifique ville phocéenne et qu'on avait envie de effectivement utiliser ces nouveaux décors. Et voilà, donc on a trouvé une magnifique histoire qui se passe dans cette ville phocéenne.
Alors comme d'habitude, hein, évidemment, toute la collection des mystères repose aussi toujours sur des duos d'enquêteurs, un peu comme la collection des meurtres. Et là, c'est Maud Baker et Nicolas Marié que vous avez rassemblés dans ce téléfilm.
Exactement. Donc, Maud Baker interprète Caroline, une jeune capitaine de gendarmerie qui se retrouve sur sa première affaire de meurtre. Elle se retrouve devant un cadavre d'une très jeune femme. Ça la bouleverse beaucoup. Juste à côté, il y a un vieux flic un peu taciturne qui est en mi-temps thérapeutique, qui s'appelle Louis Kléber, qui lui propose son aide parce qu'il a envie un peu de lui servir de chaperon. Et on va découvrir un peu plus tard pourquoi il choisit de l'aider dans cette première épreuve, qui est à la fois une épreuve humaine et puis une épreuve d'enquête. Et donc, ils vont enquêter tous les deux. Donc, Caroline va se faire aider par Louis et peu à peu, elle va découvrir que derrière cet homme taciturne se cache un secret. Et ce secret, finalement, se rapproche finalement du lieu où a eu lieu le crime, c'est-à-dire à l'intérieur d'une chorale. Cette jeune fille assassinée était vraiment la chanteuse principale de la chorale. Et la pianiste de la chorale se trouve être la fille de Louis, le vieux flic taciturne. Et Louis est fâché depuis très longtemps avec sa fille, et sa fille ne veut plus le parler, et on va découvrir pourquoi. Voilà, donc on aborde des thèmes familiaux, des thèmes sociétaux, des thèmes très puissants.
Des secrets de famille aussi, du coup.
Et voilà, et donc effectivement, oui, des secrets de famille. Et donc on va donc suivre nos personnages principaux enquêteurs sur une espèce de réconciliation avec eux-mêmes. Donc, Louis va faire des pas vers sa fille va faire des pas vers lui. On ne sait pas très bien comment ça va se passer, effectivement, parce que toute l'enquête nous fait découvrir le pourquoi du comment. Et Caroline, elle aussi, est un peu en déshérence, on va dire, affective, et ça va aussi beaucoup l'aider à faire une croix un peu sur son passé, à mettre un passé amoureux un peu difficile derrière elle, pour aborder peut-être une nouvelle vie, non pas avec Louis, parce qu'il peut être son papa, mais avec quelqu'un qu'on va découvrir dans l'histoire. Voilà.
Alors évidemment, il y a toute la galerie des suspects. Hein, on va y retrouver Fabrice Deville, Jean-Michel Noiret, Alix Bénezet. Il y a toute une galerie de personnages absolument formidables autour de nos deux enquêteurs. Et puis surtout aussi la surprise, et ça je sais que ça va être un cadeau pour les fans de Plus belle la vie, c'est d'avoir remis Marwan Berenyi quand même et Chem Sodat en couple, tous les deux dans ce film.
Exactement, ben on va vers des acteurs qui nous avec lesquels on a aussi un peu déjà travaillé.
Ben oui.
Et puis à la fois des acteurs qui sont de grands talents. Donc on aime bien les faire un peu bouger dans leur registre. Et effectivement, Marwan interprète un personnage très fort, quoi. Donc on a eu beaucoup de chance qu'il ait le temps et qu'il puisse venir le faire. Et voilà, donc on a effectivement Marwan Berenyi, Fatima Hadoum, Rebecca Anton, Léopold Inser,
Lisa Masker et plein d'autres, exactement. Justine, voilà, Thibauda, Masker, et voilà, il y en a tellement.
Oui, voilà exactement. Et effectivement Jean-Michel Noiret, Fabrice Deville, voilà.
Eh bien, on va aller retrouver, bien sûr, donc samedi, Les Mystères de la Chorale, dans ce film sur France 3, 21h05. Et puis, on va écouter un petit extrait, pour le coup. Et puis, juste après, c'est Maud Baker qui nous rejoint. Merci beaucoup, Sylvette, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et puis, bon tournage pour Les Mystères de l'École de Gendarmerie, en Nouvelle-Aquitaine, pour le coup, qu'on découvrira bientôt également sur France 3. Bon tournage à vous, malgré les conditions météo en ce moment, qui sont pas top, mais voilà. On vous envoie plein de bonnes ondes.
Merci beaucoup.
À bientôt, Sylvette, merci.
À bientôt.
Qu'est-ce qu'il fait là, lui?
Le mi-temps thérapeutique, il sort jamais de son bureau.
Ouais, c'est ça.
Il était déjà au commissariat quand l'alerte a été donnée, il a embarqué dans une voiture de la brigade.
Capitaine?
Bonjour. Il faut faire les premières constatations, hein.
Alors? Elle a reçu un coup de couteau au-dessus de l'abdomen, une artère a dû être touchée, hémorragie et mort quasi instantanée.
Et avant, elle a été renversée de son vélo par une voiture, la grosse trace de freinage. Là.
Heure présumée? J'irai aux alentours de 22h30.
Allez, coup de cœur télé consacré au mystère de la chorale, votre nouveau téléfilm qui sera diffusé samedi soir sur France 3 avec Maud Baker qui est avec nous. Bonjour Maud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ça me fait super plaisir de te retrouver, surtout qu'en plus tu as fait ton grand retour aussi dans Demain nous appartient pour notre plus grand plaisir.
Non, merci, c'est adorable. Je suis ravie d'être avec vous.
Alors justement, si tu t'es absentée de Demain nous appartient, c'est pour pouvoir te consacrer à d'autres projets. Et puis ben, parmi ces projets auxquels tu t'es consacrée, eh bien, c'est Les Mystères de la Chorale, ce téléfilm inédit qu'on va découvrir, produit par Sylvette Friedman, qu'on va découvrir donc justement samedi, qui a été réalisé d'ailleurs par une des réalisatrices fétiches de la série Plus belle la vie, Emmanuelle Duberger, qu'on adore aussi dans notre émission. Et il faut dire que là, on va te retrouver dans un rôle de capitaine de gendarmerie Caroline, qui va devoir faire face, en gros, à son premier Maccabée. C'est bien résumé ?
C'est exactement ça, exactement. Et oui, avec Emmanuelle en réalisatrice, c'était un tournage merveilleux. Avec Nicolas Marié, notre duo de flics pour essayer de découvrir et résoudre cette enquête. Et en effet, pour cette jeune capitaine de police, c'est sa première vraie affaire, en plus avec une victime très jeune.
Alors Caroline et Louis, qui est joué par Nicolas Marié, c'est un peu le yin et le yang, hein. C'est-à-dire qu'elle essaie d'y aller à tâtons, elle y va doucement, elle veut pas brusquer, alors que lui par contre c'est voilà, il a plus rien à perdre, il est en semi-retraite, il est cash de chez cash, hein, avec les suspects.
Exactement. Lui, il prend moins de gants, mais justement ce duo, chacun va révéler l'autre et va, parce que chacun a ses fragilités, ses faillures et ses douleurs, et ils vont s'apporter énormément, et le personnage joué par Nicolas Marié, qui est formidable, va aider cette jeune capitaine déjà à résoudre cette enquête, qui va vraiment, son aide va être très très précieuse, et puis au début il se cherche un petit peu, c'est pas trop s'il va lui mettre des bâtons dans les roues ou pas, et en fait il est vraiment là pour l'aider sans arrière-pensée, vraiment sans aucune méchanceté, c'est que de la gentillesse, et il va la pousser un peu dans ses retranchements, et y compris, elle va le pousser, parce que derrière, évidemment, ça aborde plein d'autres sujets. On aborde plein de sujets de société derrière cette enquête, dont des sujets sensibles, qui touchent aussi ce personnage joué par Nicolas Marié, et qui il va réussir à surmonter tout ça aussi au travers de cette enquête.
Oui, parce que s'il a demandé à être muté à ce commissariat, évidemment, on va découvrir le pourquoi du comment dans cette histoire, parce qu'il n'est pas là par hasard, Louis. Il va pas passer sa semi-retraite à Marseille pour en rien. On va le découvrir.
Exactement.
On va découvrir surtout aussi le destin tragique de Sabria, une chanteuse à la voix d'or qui est assassinée sur le chemin du retour de la chorale où elle chante. Et c'est dans les méandres de cette chorale que tu vas devoir faire toute la lumière sur ce crime.
Exactement, c'est ça. C'est comme les mystères de la chorale, comme son nom l'indique. C'est au sein d'une chorale qu'il va y avoir un meurtre de cette jeune fille, Sabria. Et après, évidemment, comme dans toutes les enquêtes, tous les membres de la chorale vont être interrogés, suspectés, et on va découvrir plein d'autres choses autour de ce personnage et de toute la famille. De toute la famille et des autres membres de la famille, y compris de Louis Kléber, sans trop spoiler quoi que ce soit.
Alors il va y avoir tout plein de personnages évidemment, hein, qui vont venir agrémenter, comme Fabrice Deville qui va jouer le rôle d'un grand patron, toujours bien habillé Fabrice d'ailleurs. Jean-Michel Noiret également, un photographe, on sait pas trop, hein, lui, on est sur la tangente. Justine Thibaudat, qu'on aime aussi beaucoup dans notre émission, Alix Benezet, Léopoldine Serre, Marouane Bérény et Chem Sodat d'ailleurs, qui se retrouvent mari et femme, c'est très drôle dans ce film, puisqu'on les avait vus en couple dans Plus belle la vie aussi, tous les deux. Donc voilà, vraiment un très très beau casting. T'as pas dû t'ennuyer sur le tournage quand même, hein.
Non, un très beau casting, alors que des comédiens formidables et des comédiens adorables. C'était vraiment un tournage idyllique, qui en plus a été interrompu par le confinement. Donc voilà, c'est des conditions assez particulières. Ça a été étalé sur du coup des mois, parce qu'on a commencé avant le confinement, on a fini fin juillet, bien après le confinement, après le premier confinement. Et des personnalités atypiques et formidables, et humainement, ça a été une aventure extraordinaire, et tout le monde était tellement heureux aussi de pouvoir travailler déjà, et avec voilà des gens, humainement c'était des très très belles rencontres et des très beaux comédiens. C'est vrai que ce casting est pour beaucoup aussi dans la réussite de ce film.
Comment t'as vécu cette histoire, Maud, justement, de devoir arrêter, c'est la première fois que ça arrive évidemment pour beaucoup de monde d'ailleurs, de devoir arrêter un tournage comme ça en plein milieu, quand on est dans le personnage, quand on est censé être en vase clos pendant 21 jours comme ça, et puis que là on doit s'arrêter parce que voilà, c'est le confinement. Pour se remettre après dedans, c'est simple, ou il a fallu vraiment travailler sur le personnage, retravailler du moins?
Bah, ce qui est vrai, c'est que du coup, pendant le confinement, bah, comme j'avais pas grand chose à faire, bah, du coup, j'ai pu, voilà, rester bien plongée dans le rôle et puis revoir, retravailler tout ça. Donc, c'était, voilà, pour le coup, j'ai eu le temps de me replonger dedans, avant de reprendre le tournage. Mais c'est vrai que c'est toujours, voilà, des conditions très particulières et d'interrompre un tournage comme ça, sans savoir quand est-ce qu'on va reprendre. Et puis, dans quelles conditions, parce qu'après, quand on a repris, les conditions étaient très différentes parce qu'il y avait, voilà, le port du masque, se faire tester, voilà, plein de conditions sanitaires à mettre en place aussi qui font que tout est plus long. On répétait avec le masque, on le retirait juste au moment de tourner. Voilà, le tournage reprend dans des conditions très différentes. Et tous les membres de l'équipe, on les avait vus avant, mais après de se revoir tous comme ça, complètement masqués et d'être... c'est vraiment des conditions très particulières, mais encore une fois... Tout le monde est tellement heureux de pouvoir travailler aussi que, voilà, vaut mieux que ça ait lieu dans ces conditions que plutôt que ça n'ait pas lieu du tout.
Oui, c'est clair.
Parce que les autres secteurs, pour l'instant, c'est dramatique. Pour le théâtre, c'est une catastrophe. Et on ne sait pas, voilà, on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va pouvoir reprendre.
Non, ça a l'air mal barré en tout cas, voilà. Mais on soutient évidemment tous nos artistes et on sera là quand il faut aussi. On écoute un petit extrait. Les Mystères de la Chorale, c'est samedi, c'est à 21h05, c'est sur France 3. Voici tout de suite pour vous un petit extrait.
Sabria Birkan, 19 ans. D'après ses papiers, elle habite pas loin d'ici. On n'a pas de témoin. C'est cette dame-là qui promenait son chien qui l'a découverte.
Faut manger, sinon vous allez avoir des vertiges.
Vous êtes pire que ma mère, Alban. Bon, vous récupérez les enregistrements des caméras de surveillance autour des lieux du crime.
C'est déjà lancé.
Et le portable de la victime ?
Je m'y colle.
Il faisait quoi au bureau à 5h du mat ?
Je crois qu'il est insomniaque.
Et de retour dans Chut, on écoute la télé avec notre invité d'honneur aujourd'hui, Maud Becker, qui est avec nous. On la retrouve dans Les Mystères de la Chorale samedi, aux côtés de Nicolas Marie et Fabrice Deville, Marouane Bérény et plein de beau monde sur France 3. Mais bien sûr, l'actualité aussi de Maud, c'est le grand retour dans Demain nous appartient. Alors, t'as dû t'arrêter, pour le coup, pendant le tournage des Mystères de la Chorale à cause de confinement. Et là, bim, tu t'es pas dit, je porte la poisse, je reviens pile poil sur le tournage de Demain nous appartient, avant le deuxième, au moment où le deuxième confinement démarre. Franchement, c'est pas de chance.
Oui, c'est vrai. Exactement, il y a eu le deuxième confinement quasiment au même moment. Mais c'est vrai que la grosse différence par rapport au premier confinement, c'est qu'au deuxième confinement, les tournages ont pu continuer.
Et oui, et
donc,
c'est ça.
Voilà, toujours avec un protocole sanitaire à respecter, très strict, et il faut, parce que c'est les seules conditions pour que les tournages puissent avoir lieu. Mais du coup, voilà, il y avait quand même une sacrée différence, c'est que j'ai pu retravailler, parce que suite à tout ça, c'est vrai que mon départ dans Demain nous appartient ne devait pas durer si longtemps, cette petite pause. Mais comme le tournage des Mystères de la Chorale, voilà, avait commencé avant le confinement, que tout a été décalé de plusieurs mois, qu'on a pu finir après, Demain nous appartient était un des premiers tournages à reprendre suite au confinement.
Oui.
Sauf que les Mystères de la Chorale ont repris un peu plus tard. Donc, c'était très compliqué de me faire revenir, puis repartir, puis revenir. Du coup, on a décalé encore mon retour. Ce qui a fait que, voilà, mon retour dans Demain nous appartient a été encore plus décalé et qu'au final, ça aura duré un an. Je me serais absentée un an.
C'est ce que j'allais te dire.
De Demain nous appartient.
Voilà. Un an. Et quand tu reviens, comment ça se passe? T'as l'impression de les retrouver comme si c'était hier?
Oui, alors après, voilà, c'est vrai que comme je suis très proche de plein de comédiens, j'avais pas du tout l'impression de les avoir quittés. Après, c'était toujours évidemment une émotion très forte de revenir, parce qu'en plus, voilà, maintenant ça fait plusieurs années, de retrouver le plateau, de retrouver nos décors, de retrouver toutes les équipes, ça c'est toujours très émouvant. Mais c'est vrai qu'avec les comédiens, comme par exemple avec Ingrid, on est tellement proches dans la vraie vie en dehors qu'on s'était jamais quittés. Donc on passe des vacances ensemble, on se voit, donc il y a pas du tout, j'avais pas vraiment coupé avec plein d'autres personnes, on est très proches, donc il y avait pas une vraie coupure avec les membres de l'équipe. Mais de revenir sur le tournage, oui, c'était très émouvant et j'étais très heureuse de retrouver tout le monde.
Ben oui, j'imagine bien que ça a dû faire plaisir. Alors, ton personnage d'Anna a dû faire face bien à une enquête un peu sous-jacente, hein, en tant que journaliste sur qui était Franck Guéo. Il faut dire que Franck Sémonin vous a donné du fil à retordre avec Juliette Trisanini à vous deux là.
Ah oui, c'était super. On est triste qu'il soit mort et qu'il reste pas plus longtemps.
Ben oui.
Parce que lui, il est génial, il est adorable et en plus c'est un super comédien. Mais oui, du coup c'était, elle est géniale cette enquête, et avec Véronique Jeannot, c'était un très beau couple aussi, un très beau duo. Et du coup voilà, le personnage de Juliette Trisanini est la seule à comprendre qu'il y a un truc bizarre, et du coup Anna va être la seule à la croire et à enquêter
et
avec
oui.
elle et voilà et à l'aider. Et renouer avec son passé de journaliste enquêtrice pour essayer de trouver des preuves et d'enquêter autour de ça.
Et les retrouvailles très émouvantes, évidemment, avec Samy Garbi dans la série.
Mais
c'était
voilà,
c'était bah, beau, ton retour, tous les deux, comme ça.
Ah, bah, tant mieux, c'est gentil. Bah, on imagine que pendant tout ce temps-là, ils étaient restés en contact. Quand Anna part, le personnage de Karim lui dit, voilà, je t'attendrai, t'es la femme de ma vie. Donc, évidemment, qu'on se disait que quand elle revient, au bout d'un an, ils sont restés en contact, et c'est ce qu'on dit, voilà. Et puis, en off, on imagine qu'il y a eu toujours des liens qui ont été gardés. Et donc, c'est des retrouvailles heureuses. Puis, il fallait un petit peu, parce que là, il y a eu tellement d'épreuves difficiles aussi dans Demain nous appartient. La séparation du couple de Chloé et Alex, voilà, il y a des choses.
Ah oui, c'était très dramatique, oui. Ces derniers temps.
Bah oui. Donc c'est pour ça que c'est agréable aussi, voilà, d'avoir des couples puis des joyeux qui se retrouvent avec des belles retrouvailles et des bons événements. Même si là, voilà, il va y avoir aussi l'arrivée d'un nouveau comédien, bah, qui est déjà arrivé là du coup en diffusion depuis quelques jours. Le personnage dit Sam,
oui.
Ce jeune garçon qui arrive et qui du coup va être avec Karim et Anna, qui va habiter avec eux pour avoir une opération du cœur.
Et oui, une opération du cœur, ce jeune dont tu as fait la connaissance voilà au Maghreb pendant ton reportage.
Voilà, lors de mon long séjour pendant
exactement.
Un an, qui aura duré plus d'un an. Dans tout le Maghreb, parce qu'à la base, j'étais partie juste en Algérie, finalement, ça a été tout le Maghreb, et il vient, voilà, ce jeune Tunisien.
Et il va falloir sauver Issam. Et ça, c'est bien de montrer ça aussi, justement, voilà, les difficultés que peuvent connaître d'autres pays. Ça permet aussi de prendre conscience, des fois, de la chance que l'on a, chez nous, de pouvoir être soigné assez rapidement, parce que c'est assez
exactement.
Vrai, ce qui est dit dans la série.
Surtout, dans certains pays, soit il y a des listes d'attente très longues, soit dans d'autres pays, ils n'ont pas les moyens. Et c'est vrai que c'est un réel sujet. Et il y a vraiment des familles, pour le coup, qui sont familles d'accueil pour accueillir des jeunes enfants qui peuvent pas se faire opérer dans leur pays et qui viennent en France pendant quelques temps, le temps de l'opération et le temps après de se remettre un petit peu, d'avoir un suivi médical. Et donc là, c'est ce qui va se passer. Pour le coup, là, Anna connaît déjà ce personnage qui vient chez elle, du coup il l'accueille et elle va essayer de remuer le ciel et terre. Évidemment, comme en plus le personnage de Marianne que par Lucie Mouchel est médecin, ça va aider. À essayer de voilà et puis d'enfoncer des portières pour arriver à trouver des associations, des aides pour pouvoir faire cette opération qui est très compliquée et très coûteuse et où les listes d'attente sont souvent très longues.
Alors, dans les semaines qui viennent aussi, et ça a dû sonner un peu comme un cadeau de Noël pour vous sur le tournage, un autre retour, celui très très attendu aussi, celui de Laurie.
Oui, qui du coup est sur les plateaux de tournage en ce moment, exactement.
Ça a dû faire plaisir de la retrouver, Laure.
Ah bah très très plaisir. Bah, c'est pareil, on s'était pas, voilà, on est très heureuse de la retrouver sur les plateaux, mais on s'était pas perdu de vue non plus pendant tout ce temps-là.
Puis elle s'était absentée pour la bonne excuse quand même. Il faut dire.
Exactement. Oui, puis elle a passion, mais puis elle a fait aussi tournage, et puis là, elle a fait les Enfoirés, là, en ce moment aussi. Alors, cette année, malheureusement, on n'a pas pu, parce que les autres années, on allait souvent la voir avec d'autres membres de l'équipe et tout, mais là, cette année, c'était sans public.
Et oui. Et on la découvrira d'ailleurs, sur TF1, ce spectacle des Enfoirés, le vendredi 12 mars, hein, le rendez-vous est pris. Les Enfoirés, Restos du Cœur, voilà. Rendez-vous donc le 12 mars, vous pourrez voir Laurie sur scène aussi. Et puis à l'écran, on la verra d'ici fin février, je pense à peu près. Donc voilà, on a hâte en tout cas de la retrouver. Des retrouvailles qui font plaisir entre toi et Laurie, en tout cas dans Demain nous appartient.
Non, bah c'est gentil.
Eh bien, on va se retrouver. En tout cas, les mystères de la chorale, c'est samedi à 21h05 sur France 3. On ne le rate pas. Et puis, bien sûr, on te retrouve aussi dans Demain nous appartient tous les jours du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1, le rendez-vous quotidien que vous êtes maintenant très, très nombreux à attendre chaque soir. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous, Maud.
Merci à toi, merci à vous.
Et puis, on te dit à très, très vite. On t'embrasse très fort.
À très bientôt. Je vous embrasse très fort.
Indiscrétion, scoop, news, tout de suite l'infomédia.
Et dans l'infomédia de cette semaine, et bien dans les prochaines semaines, France 2 diffusera en prime time la soirée Rire Ensemble contre le racisme, qui sera captée le 9 février au Cirque d'Hiver, donc demain. Et selon Le Parisien, trois humoristes présenteront cet événement. Il s'agit de Jean-Luc Lemoine, de Nadège Bossion-Diagne et de l'humoriste Donnell Jackman. Rire Ensemble contre le racisme est organisé pour la 8e année par l'Union des étudiants juifs de France et SOS Racisme. La soirée rassemblera de nombreux humoristes, citons notamment Michel Boujna, Anne Roumanoff, Pascal Légitimus, Harry Habitant, Kev Adams, Claudia Tagbo, Max Boublil ou encore François-Xavier de Maison. Je voulais juste rentrer chez moi, adapté du récit de Patrick Dils aux éditions Michel Lafon, sera diffusé le lundi 22 février à 21h05 sur France 2. Yves Rénier a réalisé ce téléfilm écrit par Jean-Luc Esteb. En septembre 86, rappelez-vous, le corps de deux enfants ont été découverts sur un talus de chemin de fer à Montigny-et-Metz. C'est le début de ce qui va devenir l'affaire Patrick Dils, une des erreurs judiciaires les plus emblématiques dans les annales de la justice depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le téléfilm aura au casting Mathilde Seigné, Thomas Mustin, Yves Rénier et puis Jean-Claude Leguet ainsi que Jean-Michel Lamy. Et enfin, les familles nombreuses, la vie en XXL saison 3 fait son arrivée le 22 février sur TF1 avec, eh bien, pendant plusieurs semaines, vous pourrez découvrir l'incroyable vie XXL de 12 familles, 23 parents, 82 enfants âgés de 1 à 26 ans, des quadruplés, des futurs nouveau-nés et le premier des petits-enfants de nos familles nombreuses. On pourra retrouver, bien sûr, les familles qui ont fait le succès de l'émission, la famille Santoro, Gaïa, Pélissard, Wander, O'Hara, Dole et Blois. Et 6 nouvelles familles vont faire leur arrivée dans l'émission avec la famille Bambara avec des quadruplés, la famille Cordule, la famille Weiner avec 6 enfants en Angleterre, la famille Gomez, la tribu au grand air, la famille Gonzalez et la famille Lebon. Et pour nous, eh bien, on va se retrouver dans un instant pour la suite de Chut, on écoute la télé avec Arnaud Xinde qui va venir nous présenter le très beau documentaire diffusé demain soir sur France 5 intitulé L'enfant du double espoir, un très très beau documentaire à ne pas manquer. On vous en parle dans un instant, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite.
Vous êtes sur Radio Écho des Choucas 103.7.
C'est bien connu, on dit que pour leur plaire, faut être joli. Comprends qu'il faut se taire quand on n'est pas du même avis. Et j'ai porté quelques jugements sur des bribes à quelques moments pour finalement en comprendre que je ne peux en faire autant. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi c'est toujours un on-dit que pour être aimé, faut être soumis. Ton silence, t'es folle si tu prends la parole. Mais moi, je sais ce que je veux devenir. C'est sur mes termes que je veux sourire. Dès que l'on est ton enfant, au fil des films et des romans, on doit se faire emmener par un prince pour être délivré. Et j'ai porté quelques jugements sur ses comptes, mais sur ses moments. Notre histoire n'est pas en jeu quand on est libre d'aimer qui on veut. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi c'est toujours un on-dit que pour être aimé, faut être soumis. Silence, t'es folle si tu prends la parole. Mais moi, je sais ce que je veux devenir. C'est sur mes termes que je veux sourire. T'es belle, c'est ce qu'on a toujours dit, mais juste quand tu souris, pourquoi c'est toujours un on-dit que pour être aimé, faut être soumise. T'es conne si tu restes en silence, t'es folle si tu prends la parole. Mais moi, je sais ce que je veux devenir. C'est sur mes termes que je veux sourire.
Moi, j'écoute Radio Écho des Choucas et c'est trop sympa.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré demain soir à l'enfant du double espoir, un documentaire inédit qui va vous être proposé sur France 5, co-réalisé par Stéphanie Thomas et Arnaud Xinde, qui est justement avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Une vraie belle histoire. qui va faire du bien et qui va peut-être donner justement un espoir à des peut-être des dizaines de familles qui peuvent être touchées en France par l'histoire de César et puis bien sûr de Charlotte et Olivier, ce couple qu'on va découvrir demain soir sur France 5. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, Arnaud ?
Oui, alors moi, j'ai été au courant de cette histoire, enfin de ce parcours, assez tôt, parce que je connaissais le grand-père du petit César. Donc, j'ai su quand les parents ont découvert sa maladie génétique, il avait à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Donc, le drame que ça a provoqué dans cette famille chez qui tout allait à peu près bien, les parents travaillaient, ils avaient un premier enfant magnifique, un deuxième enfant magnifique aussi, et puis le drame arrive tout d'un coup. Donc, j'ai un peu suivi comme ça de loin en loin de qu'ils apprenaient sur la maladie, de la façon dont éventuellement on pouvait s'en emparer, ce qu'on pouvait faire pour soulager un petit peu César. Et puis tout d'un coup, un beau jour, un dîner même de fin mars 2019, le grand-père m'apprend que ça y est, Charlotte est enceinte et donc un petit enfant est en route dans son ventre pour aider son frère aîné à mieux vivre cette anémie de Fanconi dont il était atteint.
Et il faut dire que donc le film démarre à ce moment-là, tu les suis pendant une année.
Absolument.
Mais que toutes les images qu'on voit d'avant, qui datent de 2017, c'est des images de la famille hein, qui sont utilisées aussi
absolument,
ce documentaire.
Absolument, c'est des images de la famille et il y a des moments où on ne pouvait pas être là. Et le père, je dois dire, a largement relayé, c'est-à-dire qu'il a appris à filmer avec son téléphone et avec une appli un peu plus professionnelle, à cadrer. Enfin, vraiment, toute la famille s'est emparée avec nous du sujet. Ils ont compris l'intérêt qu'il y avait à étendre, je dirais, le cercle plus restreint des gens qui étaient au courant de la maladie de César et puis de l'espoir qu'on pouvait éventuellement transmettre à des familles en difficulté, dans la douleur, en montrant quelque chose qui allait passer en prime time en plus et donc qui allait donner un retentissement médiatique un peu important.
Oui, bien sûr. Tu peux nous en dire plus sur cette maladie, comment elle s'appelle exactement ?
Alors, elle s'appelle l'anémie de Fanconi. C'est une maladie génétique, c'est-à-dire que chacun des deux parents a un gène sur deux qui est atteint. Et quand les deux gènes se combinent et qu'ils sont malades des deux côtés, eh bien, il n'y a aucune solution pour que la cellule fonctionne correctement. Là, en l'occurrence, ça atteint la moelle osseuse, c'est-à-dire le centre dans l'homme, dans l'individu, qui produit les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes sanguines, c'est-à-dire tout ce qui est au cœur de l'immunité. Ce qui veut dire qu'atteint de cette maladie, le petit César ne fabrique plus ses plaquettes sanguines, que les globules rouges et blancs déclinent irrémédiablement, que dans un premier temps, on peut faire des transfusions sanguines qui le soutiennent un petit peu, qui l'aident, mais de toute façon, à terme, il est obligé de déclencher un cancer, que ce soit de la bouche, de la gorge, une leucémie, pire que, il n'y a plus de défense immunitaire, son corps s'affaiblit irrémédiablement. Voilà.
Oui, c'est quand même terrible jusqu'au moment où renaît un petit peu
jusqu'au moment,
l'espoir.
Oui. Oui, absolument, jusqu'au moment où les parents entendent parler de choses qui ont été faites à l'étranger et même un petit peu en France à une certaine époque. Il y a eu à peu près, je crois, 9 enfants qui ont pu aider leur frère aîné ou leur sœur aînée dans une maladie comme ça génétique. Ils apprennent qu'on peut sélectionner des embryons, c'est-à-dire à la première, deuxième multiplication cellulaire, on prélève une cellule et on vérifie tout d'abord si l'embryon est atteint de la maladie.
Ouais.
Parce que comme c'est une combinaison des gènes des parents, il y a en fait une chance sur 4. C'est-à-dire si la mère transmet son gène déficient, mais pas le père, un enfant est sain, il peut fonctionner avec un demi-gène, je dirais. Si c'est l'inverse, c'est pareil. Si les deux parents transmettent un gène en parfaite santé, aucun problème aussi. Mais si jamais les deux transmettent, c'est-à-dire une chance sur 4, l'enfant devient malade. Donc c'est quand même 25% de chance. Donc quand on sélectionne l'embryon, la première chose qu'on cherche, c'est à savoir s'il va développer la maladie. On met donc de côté les embryons qui sont sains, et au sein de ces embryons sains, on vérifie dans un second temps s'il a un système immunitaire identique au système du frère ou de la sœur aînée qu'il peut sauver.
Oui, on va voir s'ils sont compatibles en quelque sorte.
Exactement, ils sont compatibles, ce qui veut dire que dans ce cas-là, une greffe a toutes les chances de prendre et ne pas être rejetée.
Comment va César aujourd'hui ?
César va super bien. Son petit frère Marceau est né en septembre déjà 2019, le temps passe, mon Dieu. En plus avec la Covid, c'est vrai que le temps s'est étiré de manière un peu étrange. On a prélevé le sang du cordon ombilical de son frère, donc il n'y a pas du tout d'intrusion sur le corps lui-même du bébé. Hein.
Oui, bien sûr.
On prélève juste le sang du cordon qui, s'il n'était pas prélevé, serait jeté comme n'importe qui.
Et vous allez voir, vous allez voir en même temps quand même. Hein. Il faut quand même le spécifier, Arnaud, tout de suite pour ceux qui nous écoutent. Mais il faut quand même spécifier que Marceau était voulu aussi par les parents, que César était malade ou pas, il voulait un troisième enfant. Donc même si c'est voilà l'enfant du double espoir et que c'est cet enfant qui va certainement permettre à César d'avoir une espérance de vie plus longue, cet enfant était souhaité par les parents. Il n'a pas été fait que pour ça.
Complètement.
Parce que c'est le cœur du débat.
C'est le cœur du débat. C'est aussi pour ça que ce sujet m'intéressait, c'est-à-dire que au moins je réglais cette question. L'enfant n'était pas fait uniquement pour ça. Et puis par ailleurs, ils auraient bien même voulu avoir un quatrième enfant. Là, ils en sont à trois. Peut-être qu'ils feront un quatrième enfant in vitro sans chercher la compatibilité, hein, juste avec l'assurance que l'enfant sera sain.
Oui.
Il n'aura pas cette anémie de Fanconi. Mais de toute façon, ils ont toujours voulu une famille nombreuse. Ce qui fait que c'est le petit plus, la cerise sur le gâteau, cette compatibilité qui a vraiment permis à César de remonter la pente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a des plaquettes sanguines comme n'importe quel individu. Il peut courir à nouveau alors que cette maladie, évidemment, comme... Il n'assimile plus l'oxygène, en plus de détériorer ses défenses immunitaires, il assimile moins l'oxygène, donc il se fatigue plus vite. Dès qu'il prend un coup, il a des bleus qui durent très longtemps, qui duraient, je dois dire, parce qu'aujourd'hui, précisément, il a le teint rose, il fait plus de bleus, il peut courir avec ses gamins, il peut trouver, à 6 ans et demi, bientôt 7 ans, début mars, il peut trouver enfin un rythme d'un gamin de 7 ans qui joue avec ses copains, qui a une vie tout à fait normale. Voilà.
Il a eu sa greffe quasiment au moment du début du Covid. Est-ce que malgré tout, César a pu regagner l'école, retrouver ses copains? J'avais l'impression que ça lui manquait beaucoup, puisqu'il a été déscolarisé à un moment donné, hein, pour éviter absolument qu'il attrape quoi que ce soit.
Absolument, il a été déscolarisé, je dirais à peu près 2 mois avant la greffe, puisqu'il a été greffé en janvier, de mémoire le 27 janvier.
Ouais, il y a un peu plus d'un an.
Un peu plus d'un an, ce qui veut dire qu'en plein hiver, c'est là où évidemment dans les écoles traînent tout un tas de virus, de maladies, donc il a été déscolarisé pour être bien sûr quand il entrerait en processus de greffe de pas avoir de maladie. Et puis en sortant, c'est vrai qu'il y a eu toute une période où il pouvait pas avoir ses copains, mais heureusement pour lui d'une certaine manière, la Covid qui a ennuyé toute une population, pour lui ça a été presque une chance puisque tout le monde était confiné.
Mais
et
oui.
Que d'une certaine manière, il n'était plus isolé de manière individuelle, singulière, comme s'il avait quelque chose à subir tout seul dans son coin. Et puis, à la rentrée, il a pu retrouver ses copains. Et je veux dire, ce qui est même assez amusant, tout le monde est malade dans sa famille, sauf lui, parce qu'évidemment, dans toute une période post-greffe, on lui donne beaucoup, beaucoup de vitamines, d'antibiotiques, etc., pour être bien sûr qu'il va rien avoir avec la greffe. Continue à produire son
prendre.
Effet dans l'après-greffe, à bien prendre. Et du coup, tout le monde est malade chez lui, des grippes, des choses, sauf lui. Il a une pêche d'enfer, voilà.
Eh bien, tant mieux. En tout cas, on souhaite le meilleur à toute cette famille, toute la famille de Charlotte et Olivier. Ce destin incroyable que vous allez découvrir demain soir sur France 5 dans Le Monde en Face. C'est aussi ça, regarder les choses en face aussi. C'est qu'il y a des familles qui vivent des tragédies. Et quand on apprend à une famille, voilà, que son enfant a une espérance de vie de même pas 15 ans, c'est terrible. Donc voilà, c'est vraiment un bel espoir, en tout cas, ce documentaire que tu nous as fait, Arnaud, avec Stéphanie. Merci à toi, Arnaud, d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Bonne soirée.
Et puis on va écouter la bande-annonce. C'est parti.
Ah bah oui, avec plaisir.
Allez, merci Arnaud, à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
César a 5 ans. Il n'est pas bien grand pour son âge. Mais il aime jouer, bouger et courir comme tous les enfants. Plus vite et plus intensément sans doute. Car le temps lui est compté. César est atteint de l'anémie de Fanconi. Une maladie génétique rare. Cette maladie entraîne la chute des plaquettes sanguines. Des globules blancs, des globules rouges. Elle provoque une grande fatigue chronique. Et à terme, l'apparition d'une série de cancers.
C'est extrêmement violent. Je regarde mon petit garçon et je me dis, c'est ça que ça fait quand on sait que son petit garçon va mourir.
Quand on prend un coup de massue comme ça, c'est un peu comme un deuil.
Pour sauver César, un espoir se dessine. Le troisième enfant que Charlotte et Olivier ont toujours voulu sera conçu par fécondation in vitro, afin d'obtenir ce qu'on appelle maladroitement en France un bébé médicament.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on parlera de la nouvelle série de France 2, La Faute à Rousseau, avec Lou Gauthier, une des productrices de la série, ainsi que le héros Benjamin Rousseau, incarné par Charlie Dupont, qui sera notre invité exceptionnel. On va parler également du retour de la série Tropique Criminel, avec son coproducteur Thierry Sorel, et Sonia Roland, qui sera notre invité exceptionnel. Maïté Nabirabin également sera notre invité pour nous parler du retour de l'émission Déconfiné sur LCP. Et puis Narcisse Mam, qui joue le rôle de Matisse actrice également dans la série Je te promets sera des nôtres. Un beau programme qui s'annonce.
Vous êtes sur Radio Écho des Choucas. 103.7.
Allez, n'oubliez pas que Chut, on écoute la télé, c'est également toute la semaine avec la quotidienne à 12h15 et 17h10 sur Radio Écho des Choucas. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chut, on écoute la télé. Et téléchargez dès maintenant nos applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Je vous retrouve donc également lundi prochain à 18h pour la Grande Hebdo. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Radio Écho des Choucas.
Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Jardres-Chauvigny, votre spécialiste culture en pays chauvinois.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.